Le service inventaire du PETR Midi-Quercy est dans ce mag aujourd'hui en la personne de Léa Gérardin. Bonjour Léa.
Bonjour.
Tout nouvellement arrivé dans ce service, vous êtes chargée inventaire du patrimoine, donc vous venez compléter l'équipe, vous êtes 5 je crois.
On est 4.
4.
Et il y a Philippe Auran qui travaille avec nous pour la rénovation de l'habitat.
Ce qui est un autre domaine. Hein. Alors quand on dit service inventaire, vous sillonnez le territoire à la recherche de tout ce qui se fait de plus beau, de plus vieux et de plus à mettre en valeur. Alors dans des villages spécifiques, vous allez faire le tour d'un domaine. Alors on a eu des ouvrages sur la terre crue avec Sandrine Ruffy et Carole Stanitsky. On a maintenant des jolies fresques à découvrir. C'est un travail en cours, je crois, à votre particularité qui est celle d'être archéologue.
Oui, tout à fait. Alors, pour être précise, je suis archéologue du bâti, c'est-à-dire que je ne m'intéresse qu'aux édifices en élévation. Enfin, on va dire que c'est le cœur de mon métier, même si j'ai les compétences de l'archéologue plus classique, qui est l'archéologue qui fouille la terre, entre guillemets.
Cherche des eaux.
Voilà, les sites archéologiques plus classiques qu'on connaît pour l'Antiquité, avec l'occupation romaine, tout ça. Donc, j'ai cette formation aussi. Mais moi, je me suis spécialisée sur les édifices, donc c'est appliquer les méthodes de l'archéologie traditionnelle à l'étude d'un édifice. Donc on va le décomposer dans tous ces éléments qui font sa particularité, donc les murs, les matériaux utilisés pour le construire, les différents éléments, par exemple des fenêtres, des portes, qui souvent en fait ont des caractéristiques très précises qui nous permettent de les classer dans le temps. Parce qu'il y a des modes, en fait, tout simplement. Comme aujourd'hui, on a les modes aussi dans nos maisons, des modes, on va dire, de déco. Ça se faisait, en fait, aussi au Moyen-Âge. Ça se faisait à l'époque. Ce qu'on appelle l'époque moderne, pour nous, c'est la Renaissance ou l'Ancien Régime, avant la Révolution française. Et il y avait des modes. On aime faire sa fenêtre plutôt avec un arc brisé ou plutôt avec un arc, ce qu'on appelle plein cintre, là, un arc circulaire, on va dire. Et ça nous permet de dater. En décomposant chaque élément de l'édifice, nous, on peut repérer, en fonction de ses caractéristiques, de quelle époque il date.
Et vous travaillez pas avec une brosse et une pioche, là? C'est plutôt...
Non. Non, voilà, exactement. Alors, brosse, c'est possible. Mm-hmm. Alors, la pioche, on évite, mais, la brosse, c'est possible parce que parfois, on arrive dans des édifices où les murs sont très, très sales et où il y a plein de toiles d'araignées. Donc, il faut un petit peu nettoyer la maçonnerie, tout ça, pour mieux voir justement ces caractéristiques. Parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la même démarche que l'archéologue classique. On va aller chercher vraiment on va dire le tout petit, le petit détail, les choses très spécifiques. Sur les murs, par exemple, ça va être de quoi est composé le mortier. Donc, il faut bien qu'on le voit, qu'on le nettoie pour savoir si c'est un mortier avec plus de sable, plus de chaux, des graviers, de la terre. Ça va nous permettre de comprendre comment il a été fabriqué, ce mortier. Et par exemple, sur les pierres, on va aussi chercher les traces de taille parce qu'en fait, les outils ont une histoire aussi. Et en fonction des outils utilisés, on peut dire bah, ça c'est un outil du Moyen-Âge, ça c'est un outil de la période moderne, ça c'est un outil d'aujourd'hui.
L'outil qui laisse des traces donc dans la construction.
Voilà. Ouais, il laisse des traces. En fait, le tailleur de pierre, comme dans les périodes anciennes, il y avait des tailleurs de pierre, même s'il y en a encore aujourd'hui hein, dans la rénovation et chez les compagnons du devoir. Mais dans les périodes anciennes, en fait, il n'y avait que des tailleurs de pierre qui du coup, avec leurs outils, laissent des traces très particulières sur les.
Un outil qui a un défaut, par exemple, va laisser un
voilà,
petit. Un petit rayon, toujours
ça.
Le même.
Oui, du coup, c'est ça. Et par exemple, ça, on l'a vu sur la cloison en pan de bois d'une maison de Kélus, parce que c'est vrai donc, pour le tailleur de pierre dont je parlais, mais c'est aussi vrai pour le charpentier qui utilise des outils spécifiques. Et si un outil est ébréché présente un défaut, on va le voir et on pourra en tirer plus d'informations sur l'édifice qu'on étudie.
Alors, vous nous parlez d'un édifice justement dans la rue droite de Caylus. Comment ça se passe? Comment vous décidez quelle maison est-ce qu'on va venir inspecter à la loupe et à la brossette? Donc, dans quel but?
Alors, en fait, quelque part, on décide pas du tout.
Vous savez, le maître.
Parce qu'en fait, si on décidait, on étudierait tout. si on nous demandait à nous, on étudierait tout. Donc, ça se fait avec les propriétaires des édifices. On va dire à leur demande, quelque part. En fait, c'est un lien qu'on tisse avec les propriétaires des édifices. Là, en l'occurrence, à Caylus, ça s'est fait à l'occasion d'un changement de propriétaire de la maison. Et les nouveaux propriétaires étaient très intéressés par justement cette démarche de savoir quelle est l'histoire de la maison qu'ils venaient d'acquérir. Et c'est un lien qui s'est tissé avec différents acteurs et d'un commun accord, eux on a leur accord de pouvoir rentrer dans leur maison et de pouvoir les envahir entre guillemets, même si l'envahissement est quand même assez limité puisqu'il y a que moi qui suis là avec ma brosse et voilà. Donc avec leur accord, j'étudie la maison. Alors là c'est facile dans la rue droite Caylus, parce que en fait on le fait avant qu'ils fassent leurs travaux et ils habitent pas dans la maison. Donc là c'est vraiment, on va dire, le cas le plus facile pour moi pour intervenir, parce que en fait j'ai leur accord pour intervenir et je suis toute seule dans la maison pour faire mon étude. Mais par exemple à Bruniquel, je fais la même chose, une étude sur une maison en particulier, mais là c'est une maison qui est habitée par sa propriétaire qui nous a accueillis aussi et qui est très intéressée pour connaître l'histoire de sa maison. Mais là, voilà, je m'organise avec elle pour revenir quelques après-midi dans la semaine pour faire l'étude sans la déranger quand ça l'arrange dans son emploi du temps, pour pas l'envahir non plus. Et je nettoie toujours en partant, si jamais j'ai mis de la poussière quelque part.
Du coup, en tant que propriétaire, il faut déjà visualiser un petit peu le potentiel pour pouvoir faire appel à vos services. Alors, vous nous parliez de Bruniquel, c'est une fresque, je crois.
Alors, à Bruniquel, en fait, c'est une très grande maison qui est dans le centre du village, où la propriétaire, en effet, avait connaissance dans son grenier, dans le niveau de comble, d'un cycle peint sur les murs. Et l'édifice est très complexe à comprendre parce que c'est plusieurs maisons médiévales imbriquées aujourd'hui dans la même propriété, ce qui était à l'origine en fait plusieurs maisons différentes. Et en effet, elle était intéressée, elle voulait en savoir plus sur ces décors peints qu'il y avait dans les combles. Donc, elle a fait appel à notre service pour essayer d'en savoir plus.
Un but de valorisation ultérieure?
Oui, tout à fait, puisque en fait, le site est quand même assez exceptionnel pour notre territoire, puisque c'est un ensemble de ce qu'on appelle des écus armoriés peints, on appelle vulgairement les blasons, même si en fait c'est pas leur vrai nom scientifique, c'est écu armorié, mais bon, ça c'est le jargon scientifique.
Merci pour ça.
Donc voilà, ça c'est assez assez exceptionnel à l'échelle du territoire, qui serait peut-être du milieu du XIIIe siècle ou du milieu du XIVe siècle. On a encore du mal à le situer chronologiquement, mais ça va venir. Et donc, ça motive une procédure d'inscription au titre de monument historique. Donc, procédure qui va être ouverte donc à la demande de la propriétaire qui souhaite que cet ensemble peint soit valorisé et soit mis à... le fait de demander une inscription au monument historique demande quand même de la part de la propriétaire, de rendre ce décor accessible au public. Donc après ça, c'est étudié, hein, comment rendre accessible une partie d'une propriété privée. Mais on verra comment ça peut se faire. Mais elle a cette démarche de le faire connaître au public. Donc nous, on va aussi l'accompagner sur cette question, de savoir comment restituer au public cet élément patrimonial.
Vous n'êtes pas une entreprise dans le service inventaire du PETR Medicare-C, c'est-à-dire que vous travaillez pour la science, hein, Léa.
Oui, tout à fait. Pour la science, pour le plaisir de la science. Et puis, c'est aussi mettre cette science à disposition du public. C'est ça le gros de notre mission, parce que c'est ne pas justement produire de la science pour la science, qui serait rangée sur une étagère et qui prend la poussière. C'est pas du tout notre idée. Nous, c'est vraiment de la rendre accessible à tous, que ce soit en termes de pédagogie, dans le sens où il faut que notre discours, ce qu'on étudie, soit rendu accessible par le format, mais aussi, dans le visible, quoi, pour le public. Aussi les conférences qui sont faites, pour restituer au public ce qu'on a pu étudier quand c'est dans des propriétés qui sont fermées, en fait. On peut pas, c'est pas comme un musée ou une église ou un château qui ouvre ses portes que ce soit pour les journées du patrimoine ou pour les églises quand elles sont ouvertes tout le temps. Là, c'est dans le domaine privé, donc il faut respecter cette propriété privée, mais il y a d'autres moyens de le rendre visible. Voilà, par les petits articles, par les plaquettes, par les conférences, voilà.
Des plaquettes qui sont très régulièrement éditées par le service inventaire, par des conférences que vous menez tout au long de l'année. Mais là, votre travail n'a pas de fin.
Non, sans fin. Mais c'est ce qui nous plaît, en fait. C'est de savoir qu'on pourra toujours étudier quelque chose. Et on nous pose souvent la question, mais vous n'avez pas fini, tout n'a pas déjà été fait. Mais non, en fait, au contraire, en fait, on a l'impression que tout a été fait, mais on va dire que tout a été survolé et qu'on peut toujours aller plus loin pour en savoir plus.
D'autant avec la nouvelle compétence d'archéologue du bâti que vous apportez à ce service qui est tout nouveau, là.
Oui,
bienvenue.
Merci. Oui, tout à fait. Moi, je vais apporter un regard un petit peu différent de mes collègues, dans le sens où, moi, je vais apporter la compétence archéologique, donc ce regard très minutieux sur certains éléments, et aussi, par exemple, alors ce que faisait déjà le service, par exemple, avec la dendrochronologie, où on fait des analyses, ce qu'on appelle les analyses complémentaires.
Alors, dendrochronologie, datation par le bois.
Oui, tout à fait. Dont on avait parlé dans une autre émission. Et moi, je peux aussi apporter une expertise sur d'autres méthodes de datation. Par exemple, on peut aussi dater avec le carbone 14 qui peut se trouver dans les murs, parce que en fait, parfois dans les mortiers, il y a du charbon qui est pris à l'intérieur, et ce charbon va nous permettre de dater par carbone 14 la maçonnerie.
Voilà. Léa Jardin, je crois que vous allez revenir toutes les semaines pour faire un petit topo de avancées des travaux. Parce qu'on a un paquet à faire, hein, sur l'ensemble du PETR Medicare-C, qui regorge de trésors encore inexploités pour le coup. Donc merci beaucoup. On peut suivre vos travaux. Alors le service inventaire du PETR Medicare-C, il y a une page Facebook.
Tout à fait.
Inventaire Medicare-C.
Oui.
Patrimoine Medicare-C, pardon, sur lequel on peut suivre un peu tous les travaux, outre les nombreuses publications, conférences, articles et brochures que vous menez de front au quotidien, donc au service inventaire du patrimoine du PETR Medicare-C à Caylus, un service qui est parallèlement financé grâce au département et à la région. Léa Gérardin, merci beaucoup.
Merci.